Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léorech Yahim Tovim Vishanim Neaimim. Nous poursuivons notre lecture et notre étude du Sidour de Tfila. Dans les Psouké des Imra, nous sommes arrivés à la Shirat Hayam. Nous allons consacrer ce cours comme introduction à la Shira elle-même. Il y a dans la Shira, dans l'introduction de la Shira, dans les Psouké des Imra, une problématique, deux questions qui se posent. La première, c'est que la Shira est marquée dans la Torah, alors que les Psouké des Imra ne sont que des Tehillim qui sont marqués dans les hagiographes, les Ketuvim. Et normalement, les Psoukim de la Torah doivent précéder ceux des prophètes et des hagiographes. Donc il aurait fallu placer la Shira en premier. Ça c'est la première question. On remarque ce procédé dans les versets que l'on récite dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et là-bas aussi il est dit trois versets de Torah, trois versets de Nevi'im, trois versets de Ketuvim et après on revient. Là-bas en fait on met les trois versets de Tehillim avant les trois versets des prophètes, bien que c'est des Ketuvim, la question est posée par les Rishonim, Tosafot, sur place. Il dit parce que David Hameler, il a vécu avant les prophètes. Mais en général, comme le dit la Gemara dans Baba Batra, qu'on ne place pas, qu'on met en priorité la Torah, et en second vient les prophètes, les livres des prophètes, et en troisième, ce sont les hagiographes, les Ketuvim, les Megillot, Sefer Ezra, les chroniques, etc. Donc la question qui se pose, pourquoi on a placé la Shira à la fin des Psouké des Imra? Autre question. La Shira, les Psouké des Imra sont définis comme étant les Shirei David. Comme on dit à Boher Beshirei David. Et la Bracha que l'on récite, elle concerne spécifiquement les Shirei David. Donc la question est certaine. Comment cela se fait-il qu'on a inclus dans les Shirei David la Shira qui n'a rien à voir avec les Shirei David? Dans la Bracha de Ishtabar, nous disons cela. Dans les on récite sur les Psouké des Imra une bracha. Et on précise que c'est Abohar Beshirei David. Et c'est ça, Bechlal, le sens de Psouké des Imra. Regardons. Au début de Baruch Shamar, la bracha d'ouverture des Psouké des Imra, nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ael Avrahman Ameulel Befei Amo, etc. Meshubach Umfor Bishan Hasid Avada Uvshirei David Abdach Nealelach. Donc ici il est précisé Uvshirei David Abdach Nealelach. Et on conclut Baruch Ata Hashem Melech Meulel Betishvachot Lekel Uvshirei David Abdach. Et c'est la conclusion de Ishtabar. Dans Ishtabar qui vient conclure, c'est la bracha de conclusion qui conclut les psouké, celle qui a été ouverte par Baruch Shamar, elle est conclue par, refermée par Ishtabar, là aussi. Melech Meulal Batishbachot, Ela Odaot, etc. C'est Abohar Beshire Zimra, Beshire Zimra. Donc ici aussi, il est mentionné les Shirim de David Ameler. La Shira ne fait pas partie de ces Shirim. C'est une Shira. Le Rambam, dans les Halachot de Tfila, comme dans le Seder à Tfila, le Noussar de la Tfila, il ne place pas la Shira comme nous le faisons juste avant Ishtabar. Lui, il place la Shira après Ishtabar, juste avant le Kaddish. Parce que il considère que la Shira ne faisant pas partie des Psouké des shirim de David, donc elle ne peut pas être inclue dans la bénédiction. Donc le minag, il ramène ce minag, qui n'est qu'un minag, de dire la shira en préparation, en introduction à la tefila de Miyoshav, ce que nous appelons la prière assise. Il s'agit du kriyat shema et des brachot qui précèdent la lecture du shema et qui conclut la lecture du shema. Il y a la prière debout qui est la Amida, mais cette partie-là du Yotzer et le Kriyat Shema est appelée dans le langage de nos maîtres comme étant la prière assise. Tefillat de Miyoshav. Donc lui, il instaure cette prière, la Shira, comme introduction, qui va nous permettre de rentrer dans le Yotzer. C'est un tremplin. Et en vérité, cette question-là, elle est marquée dans le Zohar. Et le Zohar donne exactement cette réponse. Donc, comment allons-nous comprendre la différence qu'il y a fondamentale entre la Shira, les Tehilim, les Psukei des Imra, comment inclure et pourquoi c'est inclus comme c'est le minhag instauré aujourd'hui pour tout le monde, dans tous les, il n'y a pas un seul sidour qui suit la version du Rambam. Aucune communauté ne fait cela. Peut-être qu'à une époque, il y avait des gens, des communautés qui suivaient l'avis du Rambam, mais aujourd'hui, personne ne fait cela. Et surtout que Rabbeinu Ari, dans Shara Kavanot, installe et place la Shira à la place que nous lui connaissons. Alors, quelle différence fondamentale y a-t-il entre les Psukei des Imra et la Shira? Qu'est-ce que c'est la Shira? Qu'est-ce que c'est les Psukei des Imra? Alors, on reprend ce que nous avions dit au début des Psukei des Imra. La Gemara ramène Rabbi Yossé qui dit « Yeh helki mi gomre alel bechol yom ». Alors il dit « Rabbi Yossé, que ma part soit, que je fasse partie de ceux qui disent le halel entier tous les jours ». La Gemara objecte à cela. Comment est-ce possible? Voilà que celui qui récite le halel tous les jours, il est considéré comme étant un blasphémateur. Mais haref ou mgadef, nous dit la Gemara. Alors la Gemara, elle répond, non, il ne s'agit pas du halel habituel. Il s'agit de psouké des imra. C'est alors il y a une mahloquette rishonim. Le rif, il dit que ce sont juste deux teilim, le troisième psaume, et le cinquième psaume. Et d'autres rishonim disent que c'est tous les cinq derniers psaumes des Tehillim. Donc, comme nous le faisons. Ah, mais quelle différence? Alors, avec ça, on a apaisé la question. On a répondu à la question. Mais au fait, pourquoi donc celui qui dirait le Hallel tous les jours serait-il un blasphémateur? Il est où le problème? Alors, le fondement de cela, il est le suivant. Les psukei des Imra sont une louange sur le minhag haolam. Comment Akadosh Baruch Hu a structuré, établi la création, et la création naturelle de ce monde se poursuit de manière immuable. Et c'est sur cette création, entre guillemets, naturelle, que nous louons Akadosh Baruch Hu à travers les psukei des Imra. Donc, le Hallel Agadol, il se récite sur un miracle, sur une intervention miraculeuse, exceptionnelle, de transformation de la nature. Donc, il ne convient pas de dire tous les jours qu'il y a une intervention surnaturelle d'Akadosh Baruch Hu en son monde tous les jours. Et en quoi c'est pas bon? Et en quoi cela serait-il mauvais? Alors, parce que la Gemara, elle pose la question. La Gemara dit,
on a questionné le Chacham et on lui a dit, si Akadosh Baruch Hu déteste l'idolâtrie, alors pourquoi il ne l'annule pas? Pourquoi il n'intervient pas pour la détruire, détruire les idoles? Voilà qu'il y a des gens qui se prosternent au soleil, voilà qu'il y a des gens qui se prosternent à la lune, voilà qu'il y a des gens qui se prosternent à tel ou tel autre astre, et qui font Avodah Zarah, toutes sortes de kohot, toutes sortes de puissances, qui sont adorées par les nations, par les gens. Alors Kadosh Baruch Hu n'intervient pas dans son monde pour détruire cette Avodah Zarah-là. Et la Gemara de répondre, est-ce que Akadosh Baruch Hu va détruire son monde pour, à cause des imbéciles? Le monde, Olam Kemina Gonoeg, le monde continue son existence, se perpétue, le mouvement de la création se perpétue, Olam Kemina Gonoeg, et que les imbéciles se trompent s'ils veulent se tromper. Et ils donneront des comptes sur leurs attitudes, sur le fait d'avoir fait l'idolâtrie. Mais Akadosh Baruch Hu n'intervient pas dans son monde. Ça veut dire que la nature, le monde fixé, la nature fixée par Akadosh Baruch Hu au moment de la création se perpétue. Et continue tout le temps, continue de manière naturelle. Il n'y a pas d'ailleurs d'intervention miraculeuse dans la nature. La nature est nature. L'intervention miraculeuse se fait à des moments précis, pas tous les jours. Quand? Alors à la sortie d'Égypte, au passage de la mer, à Pourim, etc., à Hanouka, à des moments précis. Quand la manne est tombée, quand les nuées ont enveloppé Israël, à des moments précis, mais pas tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas d'intervention divine, miraculeuse et spectaculaire. Le monde se perpétue, le mouvement de la création se perpétue de manière naturelle. Olam Kemina Gonoeg. C'est pour cela que celui qui dirait que Akadosh Baruch Hu intervient de manière miraculeuse tous les jours, en récitant le Hallel, alors il est un blasphémateur. Parce qu'à ce moment-là, la question se repose. Pour si Akadosh Baruch Hu intervient de manière miraculeuse au quotidien, alors pourquoi n'intervient-il pas pour détruire les idoles, pour détruire les idolâtres, pour détruire ceux qui le nient, ceux qui le contestent son pouvoir et qui ne croient pas en son unicité et son unité? Alors là, on a une question, on ne sait pas la répondre. Alors si on laisse une question sans réponse, une telle question sans réponse, alors c'est un blasphème que l'on fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de sa gloire. Serait-il limité, Chas v'Shalom? Donc c'est ça la réponse d'Agmara. L'Agmara a dit, celui qui récite le Hallel tous les jours, il est un blasphémateur. Parce qu'alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne détruit pas les idolâtres? Ça c'est la question. Donc il y a, d'une part, les psukei des Zimra, qui sont une louange sur la nature de la création, sur l'intervention naturelle, la conduite naturelle de ce monde. Et en louant, alors c'est la destinée de chacun, la conception du monde et sa pérennité à travers l'action de la création au départ, qui reste dans un cadre naturel et normal, entre guillemets. Ça, c'est les psukei des Zimra. Et tout d'un coup, nous avons un texte qui est la traduction d'un des plus grands miracles surnaturel que Akadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël lors du passage de la mer. Y a-t-il un acte plus puissamment où la puissance d'Akadosh Baruch Hu se manifeste de manière extraordinaire que le passage de la mer? Alors, a priori, ça correspond pas. Chéri David, c'est la louange dans la glorification d'Akadosh Baruch Hu dans le naturel, dans la conduite naturelle de ce monde. La Shira, c'est la glorification de Dieu de manière sûre dans son action et dans intervention surnaturelle. C'est en opposition. C'est pour ça que le Rambam, il va la placer après. On verra pourquoi après. Et le Zohar dit que c'est une préparation à la tefila assise, au Kriyat Shema essentiellement. Et il y a lieu de se poser la question pourquoi Chachamim considère le Kriyat Shema, la lecture du Shema, comme étant une prière. Nous verrons ça plus loin. Alors qu'est-ce qu'en fait la Shira? Que contient la Shira? Et pourquoi récite-t-on cela tous les jours? Et pourquoi l'avons-nous inclus, introduit dans les louanges naturelles de ce monde, dans les Shiré David? Qu'est-ce qu'elle contient, la Shira? Alors nous devons nous remettre, quand nous lisons la Shira, et ça nous devons l'assimiler, le comprendre et le mettre en application, nous ne chantons pas la Shira pour un événement passé, pour rappeler un événement passé. Quand nous récitons la Shira, quand nous chantons la Shira au quotidien, nous nous trouvons devant la mer. Nous nous plaçons, nous devons endosser le rôle. Imaginez vivre l'instant où nous sommes devant la mer, où nous traversons la mer, et qu'arriver sur la berge, en sortant de la mer et en voyant ce qui s'est passé, nous élevons ce chant-là. C'est revivre l'instant de la Shira. Revivre. Et cet instant-là, de la Shira, la vie de la Shira, quand nous avons traversé, les Israélites qui traversent la mer. Ils vivent où? La mer, à l'instant où ils traversent, la mer s'ouvre, eux ils rentrent dans la mer. La mer, elle devient comme, c'est pas comme, ils sont dans le Gan Eden. Les Midrashim disent qu'il y avait 10 miracles. Celui qui voulait boire, il avait de l'eau. Celui qui voulait boire du lait, il buvait du lait, du miel. Le sol était comme du velours. Il voyait des choses extraordinaires. D'ailleurs, nous disons, Ra'ata, Ze'eli ve'anveu. Ils disent, on dit dans la Shira, voici le Dieu et sa gloire et sa splendeur. Et alors, ils l'ont désigné comme du doigt. C'est-à-dire que Ra'ata, Shifha, Alayam, la plus petite des servantes a vu sur la mer ce que le plus grand des prophètes, qui a vu la Merkava, le char de gloire céleste, il n'a pas pu voir. Ra'ata Shifra Rayama Shelo Ra'a Yeheskiel Ben Bouzi HaKohen. Donc Yeheskiel, il a vu le char divin, la Merkava Eliona. Alors, ceux qui ont traversé la mer, ils ont vu quelque chose de plus grand. Ils ont pu désigner la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. Zé Eli vient de vous. Zé, chaque fois que le terme Zé est employé, on désigne, on le montre, c'est le démonstratif. C'est la réalité. Ça veut dire que la spiritualité, la présence spirituelle totalement détachée de la matérialité, de la réalité de Dieu, a pris une forme, manifestation physique. Et ils ont pu la désigner. Zé Eli Véanveo. Et dans la mer, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tous les Nissim et Niflaot. Donc ils étaient dans un système de Olam Haba. Le Olam Haba, ils étaient en dehors, de l'espace-temps et de l'espace de la création. Ils étaient dans une dimension d'éternité. Et c'est ça le sens de la Shira. Nous allons, après la Shira, manger la manne, boire l'eau du puits de Myriam et tous les autres miracles qui vont se produire. Tous les miracles qui se produiront pendant les 40 ans dans le désert, et qui auraient dû se produire plus longtemps en rentrant en Eretz Israël, s'ils n'avaient pas failli à leur mission, trouvent leur source, leur racine. C'est la continuité de ce qu'ils ont vécu au travers du passage de la mer. Toute la destinée d'Israël, miraculeuse, ce ne sont pas des miracles qui se produisent après, c'est la continuité de ce qui se passe dans la mer. Alors si on lit tous les Midrashim, comme on essaiera de le faire plus tard en lisant le texte, on constatera qu'il y avait énormément de nissim, de miracles, de quelque chose de prodigieux qui se passe à travers le passage de la mer. Et c'est ce passage de la mer qui va nous qualifier, qui va nous donner notre qualité, notre nom. Alors comment s'appelait Abraham Avinu? Il s'appelait Abraham à Ivri. Le mot Ivri signifie que Abraham était sur un côté du monde, seul, et que de l'autre côté du monde, il y avait le reste de l'humanité. Il était seul contre tous. Il y en a, quand il est dans son bateau, le fameux Jonas, qui se sauve dans le bateau, et que le bateau est pris dans une tempête. Lui, quand il voit qu'il y a la tempête, il descend dans la cale et il dort. Le capitaine du bateau, il le trouve en train de dormir. Il dit, c'est le moment de dormir, regarde, nous allons, c'est une tempête, nous allons nous être détruits, nous allons sombrer. C'est la fin. Pourquoi tu dors? Réveille-toi et appelle ton Dieu. Il dit, qui tu es, toi? Il dit, Ivri Anochi. Je suis un hébreu, un Ivri. Alors il dit, fait Eloé, Hachamay Vares Aniare. Et je crains. Je sers celui qui a créé le ciel et la terre. Alors il lui dit, lève-toi et prie. Qu'est-ce que ça veut dire que Jonas, il dit, Ivri Anochi. Je suis un Ivri. Pourquoi est-ce que c'est le même terme employé au sujet de Abraham? Ou c'est un nouveau terme? Une nouvelle qualification de Ham Israël? Eh ben, sache que le mot Ivri, on est appelé Ivrim, parce que Avarnu et Tayam, nous avons traversé, le mot Ever, ça veut dire traverser. Nous avons pris cette qualité de Ivrim parce que nous avons traversé la mer. Nous sommes ceux qui avons traversé la mer. Et traverser la mer, ça veut dire, nous sommes rentrés pendant un moment, le moment de la traversée, dans l'éternité. Et nous en sommes sortis. Et nous portons avec nous cette éternité-là. Nous amenons avec nous cette éternité. Et tous les jours, on répète cette shira-là. Cette shira d'éternité. On ne vient pas ici raconter les miracles surnaturels du passage de la mer. Ce n'est pas l'essentiel de le pourquoi nous avons institué, ou il s'est institué, la lecture de la Shira dans les Psouké des Imra. L'essentiel, c'est parce que nous sommes qualifiés de Ivrim. Et nous sommes appelés Ivrim. Quand nous disons que nous sommes appelés Ivrim, ça veut dire que nous sommes traversé la mer, ça signifie nous sommes rentrés dans l'éternité du Gan Eden, du Olam Haba, et nous portons maintenant, quand nous sommes arrivés sur la berge, sur la terre ferme, et que nous poursuivons notre destinée, notre histoire, nous avons en nous cette notion d'éternité. Nous amenons avec nous tout ce... Nous sommes passés par la matrice de toute de l'éternité. Et cette éternité-là, nous la portons avec nous. Donc notre destinée est une destinée d'éternité, une anaga de miraculeuse. Non pas que nous racontons les miracles, c'est que nous sommes passés par là et nous portons en nous ce concept du miracle perpétuel. C'est une autre dimension. On ne raconte pas le Hallel ici dans la Shira sur un miracle exceptionnel qui s'est passé, comme on le fait à Pessah. Nous racontons notre véritable dimension. Nous disons à travers la Shira que nous sommes ceux qui avons traversé la mer, et donc nous contenons en nous, nous portons en nous cette dimension d'éternité. Et ça fait quoi cette dimension d'éternité ? Ça fait que notre destinée, elle n'est pas soumise aux contingences de l'espace et du temps. Et c'est ça le sens profond de la Shira. Et c'est en cela que la Shira va préparer la lecture du schéma et le Yotzer qui est appelé Tefillah de Miyoshav. Tefillah de Miyoshav, ça signifie, le Kriyat Shema, nous verrons plus tard, c'est que on voit que la Gemara dit dans Shabbat que Rabbi Shimon, à la page 11, que Rabbi Shimon ne s'interrompait pas pour faire la prière. Il étudiait, il était tellement investi, totalement immergé dans son étude, il s'arrêtait pas pour faire la prière. Tosafot pose la question sur place. Et dit voilà que quand la Gemara dans le Perek Sheni à la page 32, elle raconte que Rabbi Shimon il s'est sauvé dans la grotte. Là-bas, alors la Gemara dit qu'il y avait un miracle. Ils ont eu un caroubier et ils ont eu une source. Alors dit là-bas, ils étaient enfouis dans le sable. Et quand l'heure de la prière arrivait, ils se lavaient les mains et priaient. Alors on voit bien qu'ils priaient. Alors pourquoi tu me dis que Rabbi Shimon ne s'interrompt pas pour prier ? Nous dit le Tosafot que ce qu'on appelle là-bas la prière, c'est le Kriyat Shema. On remarque qu'il y a de nombreux rabbins du Talmud qui ne prenaient pas la peine de faire la prière, mais ils faisaient Kriyat Shema. Pourquoi ? Parce que le Kriyat Shema, la lecture du Shema, il y a dans le premier paragraphe l'unicité du nom de Dieu, l'acceptation de son joug, de son unicité, son étude, nous dit Rambam, mais l'imudo, la connaissance de sa Torah. De quoi s'agit-il? C'est l'acceptation de la Torah. Kabbalat Torah, c'est une avoda. Avoda, comme il est dit, Kadosh Baruch Hu avait dit à Moshe, quand tu sortiras le peuple, ta avdoun, beosiacha et ta'am ta avdoun, et ta Elohim ala harazé. Vous servirez l'éternel sur cette montagne. De quoi s'agit-il? C'est Kabbalat Torah. Accepter la Torah, ce n'est pas l'étudier. Accepter la Torah, ça signifie servir Dieu. Et servir Dieu, c'est la prière. Qu'est-ce qu'on définit comme étant le service de Dieu? C'est la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons passé la mer. Nous avons passé la mer, ça veut dire que notre nature, notre état, notre qualité est quelque chose d'éternel. Dépend de l'éternité dans laquelle nous sommes passés. Et nous la portons en nous. Cette éternité a besoin de se nourrir, a besoin de s'amplifier. Nous ne pouvons pas vivre de pain et d'eau. Nous ne pouvons pas vivre de rationalité. Nous avons besoin d'autre chose. De quoi donc? Kabbalat Torah. Nous avons besoin, pour vivre, d'avoir la Torah. C'est comme notre respiration. Nous ambitionnons de nous lier à Hachem à travers sa Torah. C'est ça le sens de Kabbalat Torah. Et ça même, c'est quoi? C'est la Tula. Il s'agit pas d'étudier. Il s'agit de vivre la Torah. Comme la Gemara a dit, que doit faire un homme pour réussir dans son étude? Alors, ils ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, Maya ase Adam ve Hakam. Comment un homme il va devenir chacham, savant? Alors il étudie, il diminue ses activités professionnelles et il s'adonne, ve'arbe bi'yeshiva. Et il étudiera beaucoup.
La Gemara dit, beaucoup ont fait ainsi et ça n'a pas marché. Alors, la Gemara répond, et il prie. Veivakesh rahamim mimishia chokhmashelo. Et il demandera, implorera la miséricorde de la compréhension à celui qui détient le savoir. Donc il faut prier. Donc là, il faut faire l'un, il peut pas étudier sans prière, ça marche pas. C'est quoi la prière pour étudier? C'est le Kriyat Shema, c'est déclarer que sans Torah, nous n'avons pas d'existence. Parce que nous avons traversé la mer. Quand nous avons traversé la mer, nous avons changé d'état. Nous sommes de ceux qui vivent d'éternité. Donc nous avons besoin de cette respiration, de cet oxygène, de respirer cette éternité. Sans ça, nous ne pouvons pas vivre. C'est ça la prière, espérer, c'est ça le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema signifie prier, implorer, déclarer que toute notre ambition, notre aspiration, c'est la Torah. Sans la Torah est pour nous comme la respiration. La respiration même. Sans ça, on est mort. C'est même pas l'oxygène, c'est la respiration. Parce que nous respirons l'éternité. Et la Torah, c'est ça, Kabbalat HaTorah. C'est le sens de Kabbalat HaTorah. C'est ça, la prière, la Avodah. Et ça, c'est une préparation à Kriyat Shema. C'est ça, la Shira. La Shira prépare le Kriyat Shema. Donc, il convient donc de lire la Shira avec cet état d'esprit. Vivre, revivre l'événement, rentrer dans le rôle, le voir l'événement. Voir l'événement du passage de la mer. Voir ce qu'il y avait avant. Voir le passage de la mer. Et voir la gloire que nous avons. Et notre état, nouvel état, après être sorti de la mer. Nous avons changé d'état. Et c'est pour cela que la Shira est introduite ici. Et elle complète, elle couronne les Shirei David. Nous pouvons, nous, louer à Kadosh Baruch Hu sur la conduite naturelle de ce monde, sur le Olam Keminago Noeg, uniquement parce que nous avons un concept, nous avons goûté à l'éternité et nous vivons d'éternité. Donc on voit la nature, mais à travers la nature, nous voyons, nous savons voir avec des yeux d'extra lucides, de voir comment le monde tient, uniquement par la volonté de HaKadosh Baruch Hu. C'est le nom, la nature, c'est le Shem Elohim qui habille le Shem Havaya. Le Shem Havaya étant le Shem de l'éternité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.